S'il vous plaît. Je vois que les discussions sont bien animées, c'est dur de s'arrêter. Donc, qui veut se lancer et poser sa première question? J'ai vu, on m'a signalé par exemple là-bas qu'il y avait, des questions. Donc, ben on va passer le micro, on va prendre déjà les trois premières questions de trois groupes et puis on laissera nos intervenants répondre. Alors, monsieur, oui.
Bonjour, c'est Apollinaire Anakessa, je viens de l'Université des Antilles. Juste une question, je pense que les intervenants, ce sont des éminents spécialistes, experts, donc, qui s'adressent à une assemblée où il y a aussi des gens, par exemple des collectivités locales, des associations et d'autres. Alors, comment pensez-vous intéresser ce monde, qui n'est pas celui des experts, en utilisant un langage qui puisse les associer pour qu'ils participent à ce que nous leur proposons? Merci.
Comment utiliser le langage adapté avec le public, c'est ça? Oui, c'est clair. Merci.
Moi, je voulais poser la question de la participation de la communauté. Ah, il faut que je me présente. Sylvie Leclerc, je suis inspectrice générale des patrimoines au ministère de la Culture. Et donc, en discutant avec mes voisines, je pose collectivement une question qui est la possible participation des communautés éducatives, des enseignants pour faire cours, par exemple, à un professeur des écoles qui, après de longues années d'enseignement, constate un certain nombre d'évolutions des connaissances parmi son premier public. Et je me pose la question de savoir si cet enseignant-là, à un moment donné, il peut être motivé pour, depuis sa position d'enseignant, participer à des plateformes pour améliorer la transmission des connaissances dans le public et vers ses élèves aussi, mais d'une autre manière.
Merci beaucoup. Une troisième question, oui, madame.
Sylvie Max Collinard, ministère de la Culture. Alors, avec mes collègues, et puis vu les restitutions, on s'est posé la question de est-ce que finalement votre travail ne va pas amener à définir, alors le mot charte est peut-être trop calé, trop précis, mais des conseils finalement pour être des conseils aux chercheurs professionnels et puis aux participants. Alors le terme naïf m'a gênée, mais on a dit aux participants profanes, voilà, de façon à ce que si des projets se montent, finalement on ait un espèce de petit guide pour dire attention, là c'est dangereux, ou attention, vous devez agir de telle façon. Parce que ce que présentait Vincent Puig sur finalement le poids du numérique et les portails peut être aussi pour un profane assez rebutant, et puis aussi peut avoir un aspect dangereux, parce qu'on voit que finalement, suivant le type de recherche qu'on va mettre en place, on peut totalement orienter le résultat. Donc en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, voilà.
Merci. Une dernière question pour le premier tour de questions, on reviendra vers vous après. Oui.
Alors, sur un plan plus général, on s'est posé la question du rapport entre le champ culturel et les SHS et les sciences plus exactes, comme l'écologie, la biologie, en s'interrogeant sur voilà, l'articulation possible et si la culture était... parce qu'il existe une culture à la fois des sciences, des techniques, des pratiques. Donc, en fait, voilà, comment ça se situait? Ça, c'est large.
Merci beaucoup. Et on n'a pas non plus oublié les questions en ligne. Il y en a eu quelques questions qui ont été posées sur l'outil. Hugo ?
Bon, on va commencer. On a eu quelques questions qui concernent les chercheurs et surtout l'impact du développement des sciences participatives liées à la culture sur le métier de chercheur. Parce que pour être très honnête, il y en a qui sont inquiets, qui craignent la disparition des experts. On a un témoignage. Que tout le monde sache tout, n'est-ce pas la négation de l'expert et de l'expertise, carrément. Et puis il y a aussi des questions sur la compatibilité de ce genre de projet avec ce qu'impose la recherche académique contemporaine, c'est-à-dire la course, la publication, etc. Donc si quelqu'un peut nous répondre sur voilà, les inquiétudes et les états d'âme des chercheurs.
Alors, qui veut se lancer sur cette dernière question, sur les inquiétudes d'état d'âme des chercheurs?
Alors. L'inquiétude, alors c'est ce que j'ai essayé de présenter avec symétrisation. Alors, ça dépend évidemment du type de recherche que l'on fait en culture, mais l'expérience, moi, que j'ai et que d'autres partagent, c'est que quand on travaille avec des publics, avec des participants, alors Martha, avec des communautés, ils viennent chercher les chercheurs pour leurs compétences, qui sont des compétences assez précises, notamment pour travailler sur des thématiques, à la fois de manière un peu théorique, mais aussi pour proposer des dispositifs qui ne soient pas des dispositifs trop instrumentalisés ou orientés. Et donc, chacun, au final, en tout cas dans mon expérience, chacun, au final, se retrouve sur ses propres compétences. Et donc, on demande aux chercheurs un travail particulier. Et si je leur dis, mes protocoles, venez m'aider à les faire, ils veulent bien, à la limite, aider à faire les protocoles, mais la garantie de la robustesse du protocole, elle m'incombe. Et comme la garantie de la qualité des données, elle m'incombe au final. Et donc, voilà, ce n'est pas des relations qui sont totalement symétriques, même si elles peuvent être horizontales. C'est ce que j'ai essayé un peu de dire.
Pour répondre à la question de Sylvie Max Collinard, je crois qu'il faut rentrer dans une phase de co-design dans ces projets. Pas tous, hein, il y a certaines recherches qui peuvent avoir des protocoles déjà préétablis de manière très en amont. Mais disons que dans les projets culturels ou sociaux sur lesquels nous on est intervenu, il y avait toujours un peu trois rôles, les chercheurs, les scientifiques qui peuvent amener des propositions de protocoles précisément, des propositions de catégorisation, des objectifs aussi de production scientifique, les populations, les acteurs du territoire qui viennent parce que ils vont y trouver un intérêt aussi à cette production de savoir, un intérêt économique éventuellement même, hein, il faut aller jusque là. Et puis des designers, donc nous on joue souvent le rôle d'IRI, on joue souvent le rôle d'artisan, designer, de facilitateur, de maquette, de prototypage, parce qu'on pense qu'on ne peut pas arriver avec une solution informatique sur étagère. Il y a toujours une nécessité de s'adapter finalement au groupe et de concevoir avec le groupe la bonne interface, parce qu'elle va avoir, effectivement, moi je suis persuadé qu'elle va avoir un énorme impact sur la production de données et de connaissances qui vont suivre.
Et donc sur cette question d'avoir une charte, d'avoir des conseils, donc il faut à chaque fois designer, adapter, c'est bien ça, mais quel est le besoin minimum, est-ce qu'on peut quand même construire une charte, oui ou...
Je ne comptais pas répondre à cette question en fait, je ne me sens pas très compétent. Si tu permets Erwan, je veux bien dire deux mots sur les rapports entre le champ culturel, les SHS et les sciences exactes, je ne sais plus qui a posé la question.
Sur l'articulation, oui.
Ouais, alors c'est vraiment une question extrêmement intéressante et je ne pense pas qu'il y ait de réponse facile. Je crois que le champ culturel, c'est quelque chose de flou, on ne sait pas très bien le définir. On a parlé des mondes de la culture, on a parlé des recherches culturelles, le champ culturel. Est-ce qu'il appartient plutôt aux sciences humaines et sociales? De fait, oui, la culture ne peut pas être étrangère aux sociétés et donc de fait, elle est aussi un objet des sciences humaines et sociales. Est-ce qu'elle n'appartient pas aux sciences exactes? Je ne sais pas. En fait, je crois qu'il faut aussi culturaliser les sciences exactes, en tout cas être capable de comprendre que ces sciences dites exactes s'inscrivent aussi dans des contextes culturels, des contextes sociaux. C'est une question extrêmement intéressante. J'avoue que moi, je n'ai pas de réponse. Dans nos domaines, en architecture, aménagement urbain, on navigue entre les sciences exactes et les sciences humaines et sociales. On essaie de le faire au mieux. On essaie de conjuguer des épistémologies qui sont parfois incompatibles parce que, précisément, on a un objet transversal. Peut-être que le monde de la culture, le champ culturel, propose des objets transversaux qui permettent de faire des voyages entre ces différentes disciplines, ces différents mondes. Et c'est peut-être ça aussi l'intérêt de ce champ culturel.
Merci. On avait aussi une question donc, sur la question de comment parler, s'adresser au public, comment adapter le langage. Martha ?
J'ai pensé répondre à la question sur les enseignants. Mais
D'accord. Vas-y alors. Donc, il y avait effectivement une question sur comment associer la communauté éducative davantage.
Oui, après ouais, je peux revenir sur ça, mais j'ai trouvé la question intéressante parce qu'il y a déjà des projets dans ces sens-là. Si on pense voilà, les testaments des poilus et avec des classes, aussi des projets, des plateformes des sociétés savantes, des CTHS. Alors, les problèmes, c'est autour de la motivation. Alors, quand on fait un travail avec l'enseignant, on a un public étudiant qui participe, c'est comment, après, construire un rapport qui va au-delà de l'activité en classe. Est-ce que c'est possible de construire un projet qui permet aux étudiants de continuer, de les motiver au-delà? Je pense que c'est ça les vrais défis qu'on n'a pas encore résolus.
Frédéric, vous voulez ajouter un élément?
Oui, concernant les enseignants, alors c'est... Dans le domaine de la culture, si on considère que l'éducation à la science, c'est dans le domaine de la culture, il y a un projet au muséum, un Viginature École, qui est intéressant parce que c'est protocolé, ouvert aux enseignants. Les enseignants peuvent expérimenter avec, alors là on est dans le primaire, hein, expérimenter de manière très simple des protocoles scientifiques, et c'est vraiment de comprendre, au-delà de produire des données, de comprendre comment se construit la science, c'est quoi une hypothèse, c'est quoi un recueil de données et c'est quoi une analyse de données. Donc ça marche plutôt bien, mais il faut accompagner et là aussi avoir des protocoles qui soient adaptés, les co-construire avec les individus. Pour la question de la charte, très rapidement, on s'est posé la question beaucoup dans le rapport... si on faisait une charte, alors on a dans le rapport, on aura, vous pourrez le lire, des préconisations, comment, les questions qu'il faut se poser quand on doit construire un projet participatif. Mais il faut savoir aussi qu'il existe beaucoup de chartes aujourd'hui, plusieurs chartes, et notamment la charte dans des sciences participatives qui a été publiée en 2017, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc il y a des chartes qui existent. Nous, on a essayé de... au-delà de la charte, d'essayer d'avoir un pense-bête pour comment on fait un programme participatif.
Et donc sur la question du langage, est-ce qu'il y a un enjeu particulier à créer des modalités de dialogue pour se comprendre entre chercheurs et public?
Moi, j'aurais bien aimé que le monsieur qui a posé la question sur le langage adapté au public puisse la repréciser. Je suis pas sûr d'avoir saisi la question, en tout cas je la trouve intéressante. Est-ce que ça s'adresse à nous? On a dit des choses qui n'étaient pas faciles à comprendre, ou est-ce que c'est...
Non, moi particulièrement, j'ai pas eu de soucis pour à comprendre tout ce qui s'est dit. La question, je l'ai posée parce que, en fait, je suis enseignant et je me suis moi-même confronté à ce genre de choses. Où je vais sur le terrain, je participe, et souvent les gens te disent, ben, vous avez un langage à vous que nous ne comprenons pas toujours. Même en disant des choses simples, hein, participer, tout le monde sait le verbe participer, participation, participant. Donc après, ils se disent, ben oui, mais ça fait trois mots qui, pour eux, veulent dire exactement presque la même chose. Mais alors que nous, nous leur donnons quand même des nuances, si vous voulez. Par exemple, si je dis participatif, je peux imaginer que derrière, il y a la notion de collaborer, de s'impliquer, d'apporter, de partager quelque chose. Alors que dans participation, c'est-à-dire je viens, je m'assois, je participe, mais je n'apporte pas grand-chose. Vous voyez? Alors, comment leur permettre de faire ces distinguos et de leur faire accéder à ce que nous voulons leur faire comprendre?
Oui, je pense que ça ne peut pas se décréter a priori. Je crois que ça renvoie à la question de la capacitation dont tu parlais, ou l'empowerment, c'est-à-dire la capacité, enfin, la mise en capacité, le pouvoir d'agir qu'on donne au public. Et ça se fait dans l'exercice de la participation. Ça ne peut pas se faire a priori. Ça se fait précisément parce qu'on échange. Et en échangeant, on apprend les uns des autres. On saisit les nuances du vocabulaire et on avance ensemble. Enfin, il me semble que c'est la... C'est comme ça que les choses peuvent se régler.
Merci. Il nous reste une quinzaine de minutes avant le déjeuner. On va reprendre une série de questions. On va en prendre le plus possible et apporter un maximum de réponses. Oui, je vois une main qui se lève là-bas.
Bonjour, merci. Igor Galigo, fondateur de New Design et chercheur à l'EHESS. Je voulais poser deux questions. La première à Martha Severo. Je voulais revenir sur l'adresse des sciences participatives. Vous avez dit que les sciences participatives peuvent s'adresser à une communauté, à un public ou à des citoyens. Et je vous fais une proposition, je voulais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de la notion de multitude? Moi, je m'intéresse aux sciences de la participation à travers la notion, voire même le concept de multitude, qui est un concept qui vient notamment de Spinoza, mais pas que, puisque Thomas Hobbes en parlait aussi. La multitude, pour essayer de le dire en une phrase, c'est une pluralité qui se maintient au sein d'une dimension publique et dont les occupations et qui a des occupations communes, sans qu'aucun mouvement centripète ne la fasse converger dans une unité. On pourrait imaginer, par exemple, que les sciences de la participation sont ces sciences qui vont penser les processus de convergence de la multitude pour fonder une communauté ou un public. Voilà, c'est une proposition que je vous fais d'intégrer dans la lexicologie des sciences de la participation la notion ou le concept de multitude. Il y a une deuxième question que je voulais adresser, peut-être là aux organisateurs plus généralement. J'étais étonné de voir que le design n'était pas véritablement représenté dans cette assemblée. On a parlé d'architecture. Et l'architecture aux États-Unis, par exemple, dans la tradition anglo-saxonne, fait partie du design. Et vous remarquerez qu'en France, les écoles d'architecture ne sont pas des écoles de design, et les deux champs de recherche sont d'ailleurs distingués. Et par ailleurs, l'UX design ou design numérique dont Vincent Puig a parlé est aussi une catégorie spécifique du design, mais qui n'appartient pas traditionnellement à ce qu'on appelle, par exemple, en Scandinavie, le design participatif. Le design participatif, originellement, c'est du design d'objets et du design de services. Et je pense qu'il serait sans doute intéressant d'articuler les sciences participatives avec, évidemment, le design participatif.
Merci. Question suivante.
Je redescends, Jean-Pierre.
Une main qui se lève là.
C'est une question collective qui va être beaucoup plus pragmatique. C'est la question pratique de l'impulsion, dans le double sens du moment et de la méthode. C'est-à-dire qu'avec les différents exposés, on avait du mal, les uns et les autres, à bien comprendre quel était le bon moment pour lancer un projet participatif par rapport à un calendrier à tenir, etc., des éléments qui ont été donnés. Et en particulier, s'il est extrêmement difficile au début de parier sur qui va vraiment participer. Autrement dit, on ne sait pas très bien le temps et on ne sait pas très bien qui, alors comment on fait pour démarrer? Ah pardon, moi je suis un participant de Participarc, justement. Jean-Pierre Girard, je accompagne des projets numériques en archéologie à Lyon.
Une dernière question de la salle? Je ne vois pas de main. On a des questions qui ont été posées en ligne. Je donne la parole à Dalil.
Merci. Donc il y a pas mal de remarques et de questions qui tournent autour du sujet du numérique et de l'accessibilité au dispositif de participation. Donc sachant que pour pouvoir être connecté à des bases de données, c'est important d'avoir des outils numériques, des outils en ligne. C'est ce qui permet aussi de travailler à grande échelle. Mais il y a aussi des gens qui font remarquer l'importance du présentiel et du contact humain et aussi de l'accessibilité à plusieurs tranches larges de la population. Donc comment accorder en fait ces deux aspects-là, à la fois l'efficacité et la grande échelle par les outils en ligne, par les solutions logicialisées, et en même temps un contact humain, un accès direct entre chercheurs et participants. Voilà.
Qui veut se lancer? Il y avait une question à Martha spécifiquement.
Alors, je vous remercie pour la question parce qu'en effet, ça me permet d'aborder un point que j'avais oublié. Alors, ce que j'ai présenté, ce n'est pas mon avis personnel, hein, c'est ce qui a émergé. Et les mots des multitudes n'ont pas émergé, mais l'autre mot qu'on n'a pas spécialement utilisé, ça marche?
Non, oui,
ça marche.
Il faut le coller au menton.
Marche, ok. L'autre mot qui n'a pas trop apparu dans le débat, c'est aussi les mots des foules, voilà, qui n'est pas directement lié. Alors, mon avis personnel, voilà, c'est que dans les projets, pas spécifiquement les projets du Musée d'histoire naturelle, mais d'autres projets qui publiés au patrimoine culturel, on n'a pas spécialement une multitude ou foule, mais on a très peu d'utilisateurs. Ça, c'est un premier élément des réponses pour lesquels les concepts peuvent être relevants, mais ça, on ne l'a pas utilisé. L'autre élément, alors je me pose, alors si on prend ces concepts et on les considère intéressants, est-ce qu'on peut transformer une multitude en communauté C'est pas évident, ça dépend des dispositifs qu'on construit. Ça signifie qu'on peut avoir un dispositif collectif, mais après, si ces dispositifs construits ne travaillent pas sous motivation commune, je ne vois pas comment on passe de monticule en communauté. Voilà, et sachant qu'on n'a pas utilisé cette terminologie parce qu'on est toujours resté plus attentif à l'intervention individuelle plutôt qu'à construire les volumes.
Tu connais très bien les travaux de Bernard Stiegler, donc c'est la question de la localité que tu poses aussi, hein, parce qu'une localité au sens néganthropique, au sens ouvert, et qui favorise la diversité des prises de position, la diversité d'opinion, les bifurcations aussi, parfois les remises en question des protocoles dont nous parlons aujourd'hui, c'est ce que tu entends aussi par le concept d'une multitude ouverte, hein, et non pas une... Donc une localité ouverte doit être une multitude quelque part, elle doit être une multitude localisée, c'est important, et localisée ne voulant pas dire forcément localisation géographique. Il peut y avoir on a des tas d'exemples qu'on a analysés dans le Participact où les communautés ne sont pas localisées, elles sont internationales ou elles ont un centre d'intérêt, hein, qui va les rassembler, mais qui n'est pas forcément localisé spatialement. Sur la question du public, sur l'articulation, c'est la grande question, immense question, de comment articuler les ronds-points avec Facebook, que Igor Galigo d'ailleurs avait soulevé dans son colloque sur Designing Communities. Ça a été un des points très importants discuté à la suite des mouvements des Gilets jaunes. Le rond-point reste indispensable. Le moment de production d'un vrai savoir, de toute façon, nécessitera une interaction présentielle. Il y a des tas de choses qui seront impossibles à résoudre uniquement par les plateformes, et encore moins avec des plateformes designées comme Facebook. C'est-à-dire des plateformes qui sont quand même conçues pour la maximisation de la personne individuelle et non pas collective. Les groupes Facebook ne sont pas vraiment des vrais groupes. La maximisation des informations, là je vous décris l'algorithme, la maximisation des informations de mes voisins ou de mes amis. Et enfin, la maximisation de l'information la plus récente. Là, je vous donne les trois composantes principales de l'algorithme EdgeRank, qui est à la base de Facebook. C'est pas avec, voilà, il faut être conscient que ça a une influence directe sur le type de savoir ou de non-savoir, malheureusement, parce que c'est quelquefois dramatique, et on l'a bien vu dans le colloque organisé par Igor Galigo, parfois c'est une impasse et c'est une impossibilité à produire un vrai savoir collectif.
Oui, peut-être, Frédéric, je pensais notamment sur la question du périmètre...
Je voulais répondre à cette question-là. Effectivement, il manque beaucoup de personnes dans ce projet Participark. Alors, il faut voir que ça a été conçu pour permettre aux gens de se réunir pendant 18 mois et de travailler ensemble. Donc, on ne pouvait pas avoir un groupe immense parce qu'il fallait être présent. Et puis, il y avait un véritable engagement des personnes au départ à venir pendant 18 mois. Il y a eu plus de 10 réunions, ce que je disais, plus des réunions intermédiaires, donc c'était quand même un engagement fort. Et c'est vrai que toutes les disciplines qui manquent, c'est pour ça qu'on souhaite aujourd'hui cette suite pour permettre véritablement d'engager une communauté beaucoup plus large et une communauté qui pourrait largement enrichir les travaux. Là, je sais que c'est une réalité parce que même dans les arts, mon Peter a été présent, très présent, Peter Sinclair. Mais effectivement, il portait sur ses épaules cette charge assez lourde de représenter les arts. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà tellement un panel tellement large qu'on a fait au mieux.
Un petit point de complément sur cette question du design. Je trouve très intéressante la question, mais qui renvoie aussi à la structuration du monde académique français et de la place du design dans le monde académique, qu'on va trouver à la fois dans des écoles complètement séparées des universités, qu'on va trouver un peu à l'université, dans des écoles d'art et aussi dans d'autres laboratoires. Vous parliez de UX design, qu'on va trouver par exemple dans des laboratoires de psychologie environnementale, dans des laboratoires d'informatique, sur la question du design d'expérience. Bon. Et c'est vrai que nous, en architecture, on est toujours un petit peu coincé par ça, parce que dans le monde anglo-saxon, architectural design, c'est un sous-ensemble de design, comme urban design peut être un sous-ensemble aussi de design. Et les questions de design sont abordées de manière générale et de manière théorique dans le sur-ensemble, en englobant tout ce que vous avez dit, design de service, design d'objet, design d'environnement. Design d'expérience. Donc là, je crois qu'on se heurte aussi à un problème de structuration du champ académique en France. Et cette structuration, de fait, écarte, je trouve. Elle met à l'écart certaines communautés. C'est dommage.
Juste un mot. Ça fait partie dans les faiblesses que j'ai présentées tout à l'heure, les faiblesses qui ont été énoncées par le groupe. C'est ce cloisonnement dont tu parles, Daniel. Effectivement, cloisonnement qui empêche de travailler ensemble.
Il y avait cette dernière question soulevée par Jean-Pierre sur l'impulsion. Quel est le bon moment? Comment on impulse cette démarche? Quand est-ce que ça arrive? Martha?
Oui, alors justement, c'est la question. Je voulais répondre.
Oui, pardon.
En effet, qui va participer? Comment on commence? C'est compliqué, mais c'est plutôt simple la réponse. En effet, on a deux possibilités. C'est comme dans tout projet, qu'on prend quels sont les besoins et qui est intéressé. Ça peut être une relation avec une association, un point de départ. Ou l'autre possibilité, c'est lancer une plateforme sous modification ou sous notre approche dans laquelle on attire pour notre raison. Après, on ne va pas faire un cours méthodologie là, mais... c'est toujours, on ne peut pas lancer une plateforme sans connaître à qui on se dirige avant et leur intérêt.
Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin du temps qui nous était imparti.